Bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Aujourd'hui, nous poursuivons notre périple dans ce qu'on peut globalement appeler l'âge du bronze, entre autres en Méditerranée, bien que ce ne soit pas toutes les cultures qui atteignent l'art de la métallurgie à partir des années 2000 avant notre ère, mais disons que c'est notre base chronologique du moment. Et nous retournons donc d'abord en Mésopotamie pour nous intéresser à une civilisation brève mais marquante que sont les Acadiens, ça s'écrit avec deux K et non pas deux C, pour ensuite plonger dans l'histoire fascinante de la civilisation paléo-babylonienne. Comme nous sommes rendus au début des années 2000 avant notre ère d'un point de vue chronologique, nous allons aussi aborder la question des migrations indo-européennes, qui marquent durablement le monde méditerranéen à cette époque et qui ont fait couler beaucoup d'encre dans les dernières décennies. Nous ferons aussi un petit détour rapide par les îles britanniques, qui sont d'aborder le début des cultures qui s'établissent à partir de cette époque, comme la culture Beaker, dite campaniforme, et les premiers peuples celtiques. À vos cahiers de notes, c'est parti! Remontons aux années 2450 avant notre ère, qui est une époque quand même assez importante parce que l'ancienne Mésopotamie, dont nous avons parlé dans les cours précédents, se trouve en fait dans une période de conflit assez important avec des populations qui arrivent de la Syrie du Nord. Et pendant près de 4 siècles, bien là, vous allez avoir des souverains qui vont se battre pour repousser les envahisseurs ou qui vont essayer de soumettre des principautés voisines. Et l'histoire sumérienne qu'on avait vue juste avant, elle, prend fin avec l'arrivée des Acadiens et d'un roi qui passait à la postérité, Sargon d'Akkad. Cette invasion des anciennes cités-états sumériennes se réalise à peu près vers la fin des années 2400 avant notre ère. Et Sargon et ses successeurs vont donc soumettre la région de Sumer, conquérir aussi les vallées du Tigre et de l'Euphrate, envahir la Syrie du Nord. Ils vont en venir à constituer un véritable empire, mais qui ne dure qu'un siècle. Essentiellement, le cœur de ce qu'on appelle l'histoire de la civilisation acadienne, c'est 2300-2200 environ. Mais même si c'est un empire quand même très court dans l'histoire, on va quand même voir un précédent se créer parce que c'est la première fois que la Mésopotamie va être unie sous une autorité unique et qu'un empire va réussir à contrôler toutes les routes commerciales de la région que je vous ai évoquée. Alors, on a la mise en place d'un nouveau système politique dans lequel les institutions royales, donc le roi, ses conseillers, en viennent à diriger de larges territoires qui sont quand même très diversifiés, multiculturels. C'est quand même beaucoup de conquêtes que je viens de vous évoquer et ces conquêtes se sont faites souvent et même parfois de manière très violente. Et notre problème avec les Acadiens, je vous dirais, et pourquoi vous en entendez peut-être pas souvent parler, je dirais, dans tout ce qui est publication d'histoire générale, même sur la Mésopotamie, c'est qu'on a un problème de source. Elle reste très fragmentaire pour comprendre l'histoire de cet empire et on est quand même chanceux d'une certaine façon parce que comme on a quand même une institution royale, eh bien, ça a quand même permis la production de tablettes cunéiformes en acadien. Donc, on a des archives royales qui nous aident à comprendre un peu, je dis bien un peu, leur mode de gestion. Mais ça reste quand même assez troué, je vous dirais, comme information. Mais d'ailleurs, fait intéressant, la langue acadienne, elle, va rester parlée et écrite bien après la chute de cet empire en Mésopotamie. On parlera des Babyloniens, bien ils ont écrit en grande majorité, en fait, leurs archives royales, même des livres de recettes en langue acadienne, même si la langue babylonienne existait. Alors, les tablettes en tant que telles, ben, nous parle entre autres de ce premier grand roi, Sargon d'Akkad, qui aurait régné environ une cinquantaine d'années, on n'est pas certain, mais sa propagande semble avoir été assez efficace parce que son nom veut dire le roi juste et c'est de lui qu'on se rappelle le plus, en fait, dans l'histoire acadienne. Et d'après ses fameuses archives sur tablette cunéiforme, on voit que c'est un roi qui est beaucoup associé à ses conquêtes militaires qui lui ont permis, en fait, de constituer les bases de cet empire que ses successeurs vont tenter d'agrandir et surtout de consolider politiquement. Et c'est là où ça semble avoir été difficile et peut-être la raison pourquoi l'Empire acadien, ce qu'on pourrait appeler la civilisation acadienne, ne dure pas plus qu'un siècle. Parce qu'on sait que les territoires qui ont été conquis étaient gérés essentiellement via des tribus. Donc, on exigeait en fait des taxes en ressources naturelles imposées annuellement de ce qu'on en sait et que les dirigeants s'assuraient que les échanges commerciaux via un réseau de routes qui va lier les différentes régions de l'Empire n'étaient jamais entravés. Ça semble avoir été, je dirais, le moteur ici, là, l'importance de garder les voies commerciales fluides, qu'il n'y ait pas d'entraves. Mais vu le manque de sources, c'est assez difficile de savoir comment l'économie en tant que telle était gérée. Mais on semble réaliser que les communautés semblent avoir gardé un certain contrôle local parce que, entre autres, on a plusieurs anciennes cités-états sumériennes, surtout dans le sud de la Mésopotamie, qui ont gardé littéralement leur ancien mode de gestion. Et ce sont les Sumériens d'ailleurs, qui vont bouleverser l'empire d'Akkad parce qu'ils vont chercher à retrouver leur pouvoir d'antan et ils vont en venir à construire eux aussi un empire, on pourrait dire presque éphémère, parce que lui va durer de 2110 à 2003 avant notre ère. C'est l'époque où Ur, qui était redevenu un petit peu, je dirais, le cœur de ce nouvel empire sumérien, va s'effondrer et ça va ouvrir la voie à une période quand même assez trouble qui va nous permettre de voir la montée d'une nouvelle ville et d'une nouvelle civilisation qui est Babylone. Et là, je vous invite à faire attention, parce qu'il y a deux grands moments pour Babylone dans l'histoire ancienne. On va s'intéresser aujourd'hui à l'époque dite paléo-babylonienne, donc on parle essentiellement des années 2000-1600 avant notre ère environ, mais il va y avoir en fait une renaissance de Babylone beaucoup plus tardivement, ce qu'on appelle l'Empire néo-babylonien, et vous la connaissez des fois davantage, parce que c'est elle qui est dirigée entre autres par un certain Nabucodonosor II. Mais donc, intéressons-nous à l'époque paléo-babylonienne. Babylone, qui même sous les Akkadiens, est une ville commerciale importante. Et lorsqu'on arrive au tournant des années 2000 avant notre ère, eh bien, cette espèce de chef-lieu va devenir la capitale au départ d'un royaume qui, comme les Akkadiens et les Sumériens, va faire énormément de conquêtes et va venir être la capitale d'un empire. Babylone, qui d'ailleurs, si vous voulez aller voir des reconstitutions en ligne, il y en a des très très belles, devient une ville très bien fortifiée, très bien protégée contre les invasions durant cette époque, et elle va être un centre important d'échanges commerciaux dans le monde méditerranéen, mais aussi avec des contacts avec le monde, on pourrait dire, asiatique. Et l'apogée de ce royaume et même empire va arriver sous un roi qui est bien précis, qui est le roi Hammurabi. C'est le sixième roi babylonien et lui va vaincre plusieurs princes rivaux. Il va parvenir pendant plusieurs décennies à unifier une Mésopotamie qui a été déchirée par les conflits pendant plus de 3 siècles et qui va en venir à récupérer une bonne partie des anciens territoires de l'empire d'Akkad aussi. Il faut dire que Hammurabi nous est bien connu par les tablettes cunéiformes. On sait qu'il a eu un long règne de 43 ans et on a des dates assez précises, donc 1792 à 1750. Et son règne va marquer l'épanouissement d'une civilisation aux caractéristiques, on pourrait dire, suméro-acadiennes. Donc, qui reprend en fait plusieurs éléments culturels des empires du passé. Mais on va voir aussi une certaine évolution culturelle à partir de ce moment-là où l'écriture va dépasser les archives royales, les archives économiques, les archives liées aux échanges commerciaux et on va commencer à voir beaucoup d'œuvres d'art fabuleuses. Babylone devient une ville magnifique. On veut que ce soit une ville qui vaut le détour. Alors, la mosaïque en pierre, la couleurs vont marquer l'imaginaire, en fait, des gens qui vont visiter Babylone à l'époque du paléo-babylonien, mais c'est aussi une époque de littérature. Alors, on a beaucoup, beaucoup de textes variés, en fait, et des œuvres littéraires qui vont arriver, en fait, dans notre corpus de sources. On va avoir des dictionnaires parce que ils écrivent en acadien, mais la langue babylonienne existe. On veut comprendre aussi le sumérien. On a des recettes pharmaceutiques, on a des textes de divination, on a des recettes de bière et des recettes de gâteaux. Donc, on a plein de choses, mais on a aussi des traités politiques. Alors, on a quand même une belle diversité, en fait, du point de vue littéraire et même du point de vue artistique pour cette époque-là. C'est quand même une beauté sobre, hein, du point de vue des arts. Babylone va être un peu plus éclatante plus tard, mais ça reste quand même une ville qui vaut le détour. Et on voit aussi apparaître un art plus populaire pour lequel on a très peu de traces, en fait, pour les époques, je vous dirais, précédente. C'est l'époque où on va avoir beaucoup de statuettes et de représentations de peintures de gens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes. Donc, on va avoir des menuisiers au travail, on va avoir des gens qui chassent le cerf, on va voir des oiseaux qui s'envolent, on va avoir des gens qui cueillent des dattes et on va avoir aussi dans les temples ce qu'on appelle des orans. Et ça, bon, ça marque toujours un peu l'imaginaire. On écrit ça O-R-A-N-T-S. Vous pouvez aller voir encore une fois en ligne à quoi ça ressemble, mais ce sont ces statuettes, parfois de grandeur nature, avec des yeux surdimensionnés. Ils ont l'air, en fait, d'avoir pris une drogue quand même assez forte, mais ce qui n'est pas le cas, en fait, ce sont des adorants, on pourrait les appeler comme ça, qui étaient placés, en fait, dans les différents temples pour démontrer que, entre autres, les gens de l'élite économique, ou la noblesse aussi, vénéraient et respectaient les dieux. Ils étaient là en permanence. Dans les faits, les gens vaquaient à leurs occupations, mais plaçaient ces statuettes-là d'eux dans un état d'adoration permanent. Alors ça, ça fait partie un peu là, des nouveautés culturelles qui montrent un peu les gens du quotidien, bien que les orants sont davantage associée à l'élite, qui commence à émerger un peu là, à l'époque de la période babylonienne. Et on va aussi essayer d'avoir une syntaxe un petit peu plus claire aussi dans les textes sur les tablettes cunéiformes, où, comme je vous dis, c'est essentiellement écrit encore en langue acadienne. Et donc, pour l'époque de ce roi, qu'on appelle Hammurabi, les archives qui nous intéressent, en fait, viennent du palais de Mari, qui nous renseigne, entre autres, sur toutes ces législations. Et on est quand même assez chanceux parce que, ben, on a son code de loi aussi qui se trouve au musée du Louvre. Alors là, on est un peu plus précis pour cette période-là que pour la période acadienne. Hammurabi, qui va être surnommé le législateur, parce que pour chaque cité conquise, il va tenter des réformes qui vont viser à centraliser, on va dire, l'autorité entre ses mains. Et donc, dans chaque cité, il va placer un gouverneur ou un préfet. Alors là, ici, c'est comme si on avait appris peut-être des erreurs de l'Empire d'Akkad et de l'Empire d'Ur, l'Empire sumérien. On doit mieux gouverner chaque petit territoire qui a été conquis. Alors, on y place un gouverneur ou un préfet, mais qui sont accompagnés aussi de petits fonctionnaires, souvent des scribes, qui sont sous leurs ordres et qui sont chargés là, des domaines... on va dire, supervisé par la couronne. Donc, on veille aux ressources vitales comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, la distribution en eau pour les terres agricoles pour éviter qu'il n'y ait pas de sécheresse et que l'agriculture soit à son maximum. Dans certaines régions plus fragiles, politiquement, on va même installer des soldats sur place pour écraser de potentielles insurrections et même pour aider, en fait, à encadrer des travaux publics. Hammurabi, d'après toutes ces belles archives, est aussi un roi guerrier dans ce contexte-là qui va attribuer ses victoires au dieu de Babylone qui est Marduk, le jeune taureau du soleil, ce dieu qui a vaincu le chaos. Et c'est un peu sous sa, on va dire, oui, sa gouverne qu'Hammurabi va en venir à créer un code de loi qui est quand même assez complet et qui nous éclaire sur les mesures de gestion de la vie en société dans un empire comme ça qui est assez bigarré, multiculturel. C'est une forme de réforme juridique qui est vraiment très importante pour l'époque. Il avait été retrouvé en fait en 1901. Il est au musée du Louvre. Ce qu'on a, c'est une espèce de grande stèle en basalte noir. Le but, c'est que ce soit public, même si ce n'était pas la majorité de la population qui savait lire et écrire à l'époque. Les gens qui travaillaient pour l'État ou qui avaient un lien avec l'État, eux, en étaient capables. Et ce qu'on a, c'est 282 arrêts écrits en langue acadienne. Et ça touche différents aspects de la société et de l'économie. Et ça nous présente, en fait, en haut, au sommet de cette stèle de basalte, on voit, en fait, le roi Hammurabi qui est debout en attitude de prière face à un dieu, le dieu soleil, le dieu de la justice, Shamash, qui lui est assis sur un trône. Alors, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que ce sont les dieux, et c'est surtout le dieu de la justice, en fait, qui a murmuré à l'oreille d'Hammurabi le code de loi qu'il est en train de présenter à l'ensemble de son empire. Ce qu'il a de particulier, ce code de loi-là, c'est qu'il est basé sur ce qu'on connaît comme étant la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et bien que les lois s'appliquent à tous, et en ce sens, bon, c'est quand même assez égalitaire, les punitions vont varier selon le rang social. Donc, on s'entend qu'à crime égal, un noble va être beaucoup moins puni qu'un paysan, et les esclaves, ben, dans leur cas, c'est presque toujours la peine de mort. Alors, dans leur cas, il faut vraiment ne pas déroger à la loi. On a toutes sortes de choses. Hein. On a des punitions pour des faux témoignages, on a des punitions pour le vol, le recel, on a des lois qui concernent le travail, comment se comporter au travail, la propriété privée, des lois commerciales. On a quand même aussi des lois qui concernent le mariage et le divorce. Et c'est, entre autres, dans le code d'Hammurabi, des archives, je vous dirais, complémentaires, qu'on voit, entre autres, que les femmes peuvent demander le divorce. Alors ça, c'est assez intéressant. On voit aussi des châtiments physiques qui peuvent être appliqués selon les classes sociales aussi. Et ce qu'on voit, donc, c'est une certaine laïcisation du droit, parce que là, ce n'est pas juste religieux, ça touche tous les aspects de la société. Et toutes ces lois-là ont en fait un caractère, on pourrait dire, concret, qui n'est pas général. Là. On va dire, si un vol de nourriture, voici la punition selon votre rang social. Une femme qui veut divorcer, voici les raisons pour lesquelles elle a le droit de divorcer, voici comment ça se produit. Alors, c'est pour ça que c'est présenté un peu comme une volonté de justice égale pour tous, mais comme je vous le disais, c'est en fait, il y a trois catégories de population selon ce code, les hommes libres, et là-dedans, on peut inclure beaucoup les aristocrates qui sont au sommet. Les hommes du peuple, ça, ce sont souvent les gens qui ont des dettes envers des aristocrates ou autres, et on a les esclaves. Et donc, les punitions vont varier selon le rang de la personne. Et en même temps, en fait, que le royaume babylonien, ce qui va devenir un empire babylonien, émerge et devient très puissant du côté de la Mésopotamie, il se passe beaucoup de choses aussi à partir de 2200-2000 avant notre ère, parce qu'on commence à voir des peuples qui viennent de contrées peut-être plus lointaines et qui migrent vers le croissant fertile, notamment en Anatolie. On va voir en fait les ancêtres de ceux qu'on va appeler les Hittites qui arrivent. Et après, à Hammurabi, donc dans son cas, on arrive dans les années, fin des années 1700, on va avoir une crise économique et beaucoup d'attaques extérieures qui vont commencer à affaiblir, en fait, de plus en plus le royaume, l'empire de Babylone. Et à partir de 1595, avant notre ère, eh bien, ça y est, les Hittites vont arriver, ils vont s'emparer de la ville, et là, la Mésopotamie va entrer dans une autre ère de conflit. Et donc, les Hittites font partie, en fait, d'un vaste groupe ethno-linguistique qu'on appelle les Indo-Européens. Et là, je vais vous laisser une petite pause, le temps de pouvoir organiser vos notes si jamais vous en prenez, parce qu'on change un peu de registre. Alors, qui sont les Indo-Européens? Les hypothèses tournent autour de l'idée d'un peuple souche pour plusieurs sociétés de la Méditerranée pendant l'Antiquité et qui a été identifié tout d'abord par les ressemblances, on va dire, sémantiques et sémiotiques entre plusieurs langues qui étaient parlées, entre autres, en Méditerranée. Le terme lui-même, Indo-Européen, bien ça a été utilisé pour la première fois en 1816 par un chercheur allemand qui s'appelle Franz Bopp pour désigner un ensemble de langues d'Europe, mais aussi d'Asie, qui présentent plusieurs ressemblances au niveau de la structure. Et ces langues sont entre autres le sanskrit, le hittite, le grec, le latin, on peut parler du vieil irlandais, en fait, de plein de vieilles langues, en fait, des îles britanniques, même le vieux prussien, et ça présente donc plusieurs liens communs. Grosso modo, ça veut dire qu'une majorité de langues d'Europe et une grande partie des langues de pays comme l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde qui appartiennent à cette même famille linguistique qu'on appelle l'Indo-Européen. Et donc, revenons toujours aux années 2200-2000, d'un point de vue, on va dire, archéologique et surtout démographique, bien, on remarque en fait que c'est une époque où il y a une forte augmentation de la population, des foyers d'habitation partout autour de la mer Méditerranée, mais ce qu'il y a de malheureux, c'est qu'il n'y a pas vraiment de traces archéologiques solides, chronologiques même, pour nous aider à identifier une zone ou même un peuple souche avec des différences culturelles qui auraient pu apporter ces racines linguistiques qui vont lier toutes les langues que je viens de vous mentionner entre elles. Alors, c'est pour ça qu'on va parler encore de migration indo-européenne pour cette époque, et migration au pluriel, donc plusieurs vagues migratoires. Et là, coup de théâtre. Si vous avez des livres sur les Indo-Européens, ben là, ils ne sont plus à jour. Et d'ailleurs, je propose un livre à la fin du cours qui a été écrit avant la publication d'une étude qui a quand même été assez importante parce que récemment, il y a des chercheurs qui ont conclu que l'origine de la famille des langues indo-européennes remonterait à environ 8120 ans. Et ça, c'est grâce entre autres à la paléogénétique. C'est l'équipe du chercheur Paul Egarty de l'Institut Max Planck qui a publié dans la revue Science, le 28 juillet 2023, une étude qui nous offre un nouveau cadre pour la chronologie et la répartition des langues que je vous ai mentionnées un peu plus tôt. Et les résultats ont pu être corroborés avec de l'ADN ancien, et ça, c'est une première dans l'histoire de l'étude des Indo-Européens. Alors, cette grosse analyse phylogénétique, comme on l'appelle, qui est l'étude des liens de parenté entre les individus, eh bien, ça fait remonter l'origine des langues indo-européennes à 8120 ans. Alors, ce qu'on pourrait appeler le berceau de départ de la famille des langues indo-européennes partirait du sud du Caucase. Je vous invite à vous prendre une carte pour bien identifier les régions que je vais mentionner. Donc, ça partirait du sud du Caucase et ensuite, eh bien, les gens se seraient séparés en plusieurs branches migratoires. Alors, on vient un peu confirmer, corroborer d'anciennes hypothèses ici, donc des branches migratoires au pluriel. Il y a une partie qui serait partie vers l'ouest en passant par la Turquie jusqu'en Grèce. Il y a une autre branche qui serait allée vers le nord jusqu'aux régions des steppes. Là, on parle il y a environ 5000 ans. Et ils se sont à nouveau séparés avec des diffusions vers l'Europe et l'Asie. Et chaque branche s'est séparée du reste il y a environ 4890 ans. Donc, on a vraiment beaucoup de branches indo-européennes qui, à un moment donné, bien, les gens sont allés chacun de leur côté, apportant leur langue, apportant leur culture et se mélangeant aux populations locales des régions où ils vont arriver, parce qu'on ne voit pas vraiment de guerre ou de conquête violente pour cette époque-là. Et donc, ça, c'est une étude novatrice qui vient fusionner les anciennes hypothèses les plus véhiculées sur les origines des steppes ou du Caucase. On avait les deux hypothèses, en fait, donc on vient les combiner d'une certaine façon en ce qui concerne les peuples souches qui sont derrière l'immigration indo-européenne. Et cette étude-là, qui est vraiment importante, n'exclut pas non plus les théories des ressemblances culturelles entre plusieurs peuples de Méditerranée et d'Europe, notamment ce qu'on appelle la théorie de la trifonctionnalité. Ça avait été développé par un historien philologue qui s'appelle Georges Dumézil, qui a démontré que toutes les sociétés antiques, même celles au début de leur révolution vers, on va dire, une société plus organisée, ont des hommes qui sont responsables pour la religion, donc des prêtres, des clercs. On a des gens qui sont responsables de la guerre, un roi et ou des généraux. Et on a toujours des gens qui sont responsables de la production, entre autres alimentaire, comme les paysans. Et cette division sociale fait en sorte que du point de vue mythologique, surtout religieux, ben on a toujours un dieu associé à la guerre, un dieu associé à l'agriculture et à la fertilité, et toujours une espèce de héros fondateur qui explique les origines de la population. Pensez à Narmer, entre autres, du côté de l'Égypte. Alors, les langues et les traditions mythologiques des communautés agricoles des îles britanniques bien, entre dans cette espèce d'histoire de migration parce que c'est à partir des années 2000 avant notre ère là, qu'on va commencer à voir différentes cultures qui vont s'établir et se développer sur les territoires actuels de l'Angleterre, Pays de Galles, de l'Irlande, de l'Écosse. Donc, avec l'augmentation démographique provoquée par les migrations indo-européennes, bien là, vous avez les gens de la culture dite « Beaker » en anglais, mais qu'on appelle la culture campaniforme en français, qui vont se mélanger à de nouvelles populations. L'ancienne culture Beaker occupait déjà une partie de ces territoires-là, surtout en Angleterre. Ce sont eux qui sont derrière, du moins en grande partie, la construction de Stonehenge. Et il y a des études génétiques réalisées récemment en Grande-Bretagne qui ont confirmé qu'ils sont en fait les ancêtres de nombreuses familles dites souches d'Angleterre. Mais après l'immigration indo-européenne, bien là, il y a plusieurs changements qui s'opèrent parce que là, on commence à voir des sépultures complètement différentes. C'est la fin de toute façon des constructions mégalithiques comme Stonehenge, les cercles de pierre et tout ça. Et les sépultures ressemblent davantage à celles d'une culture qui nous vient de Russie et d'Ukraine, qu'on appelle la culture Yamna. C'était une culture qui a évolué sur ces territoires-là entre 3600 et 2300 avant notre ère, qui était composée de populations nomades au départ et de bons cavaliers d'après les fouilles archéologiques. Et les cultures des îles britanniques qui suivent l'immigration indo-européenne bien, ont des ressemblances avec la culture Yamna, surtout dans la fabrication de certains bijoux, les vases aussi, et l'organisation des tombeaux. Donc, ça vient un peu confirmer une branche migratoire, je vous dirais, indo-européenne ici. Et graduellement, un peu partout en Europe, eh bien, les ancêtres de ceux qu'on va appeler les Celtes bien, commencent à s'organiser, à se sédentariser et à pratiquer l'agriculture. Alors, afin de continuer dans cette tranche chronologique importante dans l'histoire méditerranéenne, mais aussi asiatique, notre prochain cours nous mènera entre autres en Égypte afin d'aborder plus en détail la civilisation crétoise ou dite minoéenne. Pour en savoir plus sur le sujet de ce cours, je vous suggère comme lecture A History of the Ancient Near East par Mark Van de Mierop, paru chez Blackwell, parce que vous avez aussi quand même dans les cours précédents un livre en français qui est paru chez Bellin pour la Mésopotamie, mais celui-là est quand même intéressant en anglais, de même que Mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident par Jean-Paul Demoule, qui est paru chez Seuil, mais c'est paru avant les récentes études que j'ai abordées dans le cours d'aujourd'hui. Si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire et en archéologie sur les réseaux sociaux, eh bien j'ai deux comptes Facebook, Evelyne Ferron, historienne, et mon compte plus d'actualités quotidiennes, Historiophile. Je fais aussi des actualités sur mon compte personnel X, mais je migre graduellement vers le nouveau réseau social Blue Sky, où il est plus facile de suivre mon fil d'actualité et où l'information n'est pas encore polluée par toutes sortes de publicités et autres. Alors, je vous dis à bientôt pour un prochain cours!